Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et pour ce nouveau numéro d'Antidote, aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour du mot économie. Alors pourtant, vous me direz que quoi de plus commun que ce mot, quoi de plus évident et même naturel que l'économie qui nous encercle totalement. Bah justement, nous allons essayer de dénoncer la naturalisation de ce mot. Alors pour les fidèles d'Antidote, vous vous souvenez que dans nos rubriques précédentes, nous avons déjà dénoncé la naturalisation de concepts comme la démocratie ou l'humanisme. Aujourd'hui, ce sera l'économie. Alors avant d'aller plus loin, mais permettez-moi, alors une fois n'est pas coutume, il paraît que ça se fait à la radio, de dédicacer cette émission. Je voudrais la dédicacer aux économistes atterrés. Les économistes atterrés, vous en avez certainement entendu parler, c'est un groupe d'économistes qui depuis 2010... se dit atterré de ce qu'il se passe dans nos économies. Et je veux leur dédicacer cette chronique. Alors bon, d'abord, passons sur l'appellation. Moi, atterré, ça veut dire littéralement jeté à terre. Bon, on aurait préféré des économistes debout, voire vent debout. Mais passons. Plus sérieusement, on hésite. Sont-ils d'incurables naïfs ou hypocrites ou mieux cyniques? Comment peut-on être atterré qu'un gouvernement libéral, même s'il usurpe le nom de socialiste, applique une politique libérale? Bref, qu'est-ce qu'ils nous proposent ces économistes atterrés, qu'ils soient naïfs, hypocrites ou cyniques, ou même pleins de bonnes intentions? Alors, que nous proposent-ils? Pour ça, vous pouvez vous reporter aux deux manifestes qu'ils ont publiés, le premier en 2010, le deuxième en 2014. Alors, ils nous proposent rien de moins que les vieilles ficelles keynésiennes pour retrouver, devinez quoi, le chemin de la croissance. Relancer l'activité, relancer l'inflation, relancer la consommation, relancer les investissements, relancer les dépenses publiques, relancer la recherche, relancer l'innovation, relancer l'industrie, etc., etc. Il faut tout relancer. En deux mots, réguler le capitalisme pour le rendre un peu plus redistributeur, un peu plus fordiste, un peu plus étatiste, un peu plus trente glorieuses. Et ce sont des universitaires, des chercheurs bardés de diplômes et des sommités altermondialistes qui font preuve d'autant d'imagination. Alors pour eux et pour tous les autres, un conseil de lecture. C'est un ouvrage paru en 2013 aux éditions Le Pas de Côté sous le titre « Sortir de l'économie ». Et il est signé, je cite, par « quelques ennemis du meilleur des mondes », quelques ennemis de ce fameux monde de la société de consommation. Voici pour commencer un extrait de l'introduction de cet ouvrage. Les murs auxquels nous nous heurtons sont en grande partie le résultat de nos actions comme de nos inactions. Ce que veulent encore la plupart, c'est seulement que l'économie revienne à ce qui est imaginé comme son rôle prétendument naturel et primitif, à savoir approvisionner en biens tous les besoins des individus. Et en ce début de XXIe siècle, dans ce monde devenu financier, il semble aux gens que cette économie réelle a été foulée aux pieds et oubliée. L'indignation devant cet oubli est forte et tonitruante. On ne s'indigne que de cela. Car on veut continuer, pour l'éternité figée, à échanger du pain, des sushis, des iPods, du chocolat, des livres, des produits locaux, des tickets cinéma, des paniers bio, etc., contre du travail. Aujourd'hui, ici comme ailleurs, on nous prive de travail, de véritables salaires et retraites. Et on nous demande toujours de l'argent, pour du pain, des steaks hachés, des pleins d'essence et des forfaits téléphoniques. Et comme certains ont moins d'argent, ils ont moins de tablettes numériques, de voyages en Grèce ou de petits pavillons. Et quand d'autres n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de pain, ni de toit, ni de soins, ni de liens. Pour la majorité des homo economicus, il faut donc que l'économie réelle reprenne ses droits, que l'humain soit remis au centre, que le bon sens et la morale reprennent leur place. Se projetant sur le passé des Trente Glorieuses, cette critique superficielle se fait à partir de la prison aux mille barreaux d'une immense nostalgie pour la période capitaliste du plein emploi, l'État capitaliste de Providence et sa société de consommation. Et cela parce que notre forme de vie sociale, économique, semble avoir totalement échappé à l'emprise humaine, à l'autodétermination, à notre maîtrise et même à notre intelligibilité. Ces manifestations seraient de toute façon éternelles, comme ne cesse de le répéter la légende de l'économie, car elles auraient soi-disant existé depuis la nuit des temps et à l'état embryonnaire dans toutes les formes de société. Au mieux, on ne pourrait donc que les réguler, les gérer et les améliorer, c'est-à-dire changer de mode de vie, plus écolo, plus égalitaire, plus favorable aux pauvres, plus démocratique, à l'intérieur de cette même forme collective de vie immuable qui doit en elle-même rester non questionnable. On pourrait aussi, si le cœur y est encore, changer pourquoi pas les gestionnaires, droite, extrême droite, écolo, etc., et vouloir abolir seulement la propriété privée pour passer à une idyllique propriété collective, afin de faire varier le mode de distribution des mêmes principes sociaux figés et des mêmes formes de socialisation indépassables. On pourra donc discuter absolument de tout, sauf de l'existence absurde du travail et de l'argent, de l'échange et de la productivité, des marchandises et de l'État, de la croissance et de l'idéologie du développement, du progrès et du crépuscule de l'économie. L'économie est comme l'inconscient de la société moderne. Ce mythe de l'économie naturelle est au fondement de notre imaginaire et constitue la principale limite à la sortie du monde existant. Sa critique systématique est la seule porte de sortie de cet encerclement. Voilà l'introduction de cet ouvrage et beaucoup de choses sont déjà dites dans cette introduction. Alors cet ouvrage, il rassemble en fait une sélection d'articles extraits des premiers numéros de la revue Sortir de l'économie, des numéros sortis entre 2007 et 2009. Alors je reviendrai certainement sur cet ouvrage dans d'autres chroniques, notamment à travers des articles consacrés au travail et un article particulièrement intéressant consacré au transport dans notre société. Mais pour aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur un des articles intitulé « Sur l'invention grecque du mot économie » et sous-titré « Critique d'une supercherie étymologique moderne ». Je vous lis l'introduction de cet article. Dans la pensée moderne, âne historique, bourgeoise et bas de plafond, l'étymologie des mots est une clé pour mieux les définir. Plus on remonte aux racines du mot, plus on peut naturaliser la chose dont le mot est le signifiant. Les problèmes de traduction sont généralement passés par-dessus bord et l'on projette alors des significations modernes sur les racines étymologiques d'un mot, sans comprendre l'épaisseur de leur signification sociale, pourtant intrinsèquement liée à un contexte de rapports sociaux historiquement situés, dont on ne peut les arracher qu'au prix d'un anachronisme. Cette tragédie est celle du terme « économie ». Et c'est ainsi que depuis 1690, alors 1690, c'est l'année où l'on trouve la première définition du terme économie dans le dictionnaire universel de Furetière. Donc de 1690 jusqu'à nos jours, par exemple, on peut citer en 2008 Nicolas Sarkozy qui affirmait vouloir gérer la crise économique en bon père de famille. Donc depuis ce temps, on trouve l'idée que ce terme est emprunté au latin economia, lui-même tiré du grec oikonomia, formé des mots oikos, maison, et nomos, loi. Cette définition présuppose que l'économique, en tant que pratique, autrement dit la vie économique, est quelque chose de naturel, transhistorique, et que dans toutes les cultures et sociétés humaines, il y aurait toujours eu des pratiques de ce type de gestion de la maisonnée, où l'on ménage son bien, où l'on produit, l'on économise, l'on investit, l'on échange, l'on épargne, l'on répond à ses besoins. Des pratiques où la logique de l'intérêt et la raison utilitaire auraient toujours structuré la vie quotidienne. C'est sur cette supercherie étymologique que l'auteur de cet article se penche, en revenant sur la signification véritable de la toute première occurrence historique du terme « oikonomia » de la Grèce antique. Et donc on va faire un petit voyage dans l'histoire. Je vous lis des petits extraits. En fait, ça se passe dans le dernier tiers du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc dans la Grèce antique. Et à cette époque est né un genre littéraire nouveau qui conduit à la prolifération d'ouvrages traitant de la manière de gérer un grand patrimoine rural et agricole, des ouvrages qu'on a appelés les traités agronomiques antiques. Donc il faut savoir qu'on est encore au début de l'agriculture. Cette littérature serait en quelque sorte à rapprocher, selon Serge Latouche, dont on reparlera, des textes servant à l'enseignement ménager des jeunes filles de bonne famille des 19e et 20e siècles. Vous avez dû lire ça peut-être. Donc le mot économie, oikonomia en grec, apparaît pour la première fois vers 370 avant Jésus-Christ dans un de ses traités, un texte de Xénophon d'Athènes. Alors un petit mot sur Xénophon. Xénophon, il fait partie de la bande des grands aristocrates terriens, élèves de Socrate, qui ont été déchus après la guerre du Péloponnèse. Défenseur du modèle politique spartiate, Xénophon donc a participé en tant que mercenaire et chef d'armée aux guerres que se livrent les fils du roi perse Darius II. Il fit fortune de cette manière et pour le récompenser, le roi des Spartes lui permet de redevenir un grand propriétaire foncier et en se faisant octroyer un grand domaine près d'Olympie dont il va s'occuper pendant 20 ans. Et ce premier traité, donc intitulé l'économique, la première fois qu'apparaît le mot économie, c'est un traité où Xénophon va nous parler de son expérience de presque 20 ans de la gestion de ce domaine. Expérience qu'il veut faire partager à tous les grands propriétaires aristocrates et où il a réalisé son idéal de grand propriétaire exploitant. Son but, à lui l'aristocrate ruiné, est en effet de recouvrer sa fortune monétaire et il va utiliser son nouveau domaine pour réussir cette unique fin. Donc on voit, commence à voir un petit peu d'où vient l'économie. Et donc Ischomaque, c'est le personnage qu'emploie Xénophon, raconte comment il règle sa production et apporte le plus possible de surplus au marché local et comment accroître un patrimoine en revendant très cher des terres achetées à vil prix et bonifiées par une mise en culture. Ça nous dit des petites choses. Ce traité se présente comme un traité d'agronomie, un guide pour propriétaires terriens bien nés, d'où il ressort que l'agriculture permet de retrouver sa fortune et son statut d'antan si le propriétaire s'implique dans la gestion, fait attention à quelques connaissances d'agronomie peu techniques et sait dresser sa femme, son régisseur et ses esclaves. Tout un programme. Alors, pas d'anachronisme toutefois, Xénophon ne rapporte pas des techniques économiques au sens moderne. Il ne développe pas plus une analyse économique. En termes de propositions, ce ne sont que des enseignements moraux et psychologiques, par exemple sur les bonnes vertus de son épouse. C'est assez intéressant. Voilà ce qu'on a appelé de le départ économie. Et ce même Xénophon, assez rapidement, il va y avoir une évolution de ce terme, une extension à toutes sortes d'organisations et de gestion. Et donc Xénophon va écrire un deuxième traité sous le titre « Le pauvre roi », traduit par « Moyen de se procurer des ressources ». Déjà, c'est tout un programme. Je vous lis de nouveau un petit extrait. Donc, dans ce nouveau traité, donc là, on n'est plus dans la gestion d'un domaine, on est dans la gestion d'une cité ou d'un État. Donc, les solutions proposées pour redresser les finances d'Athènes peuvent se résumer de cette façon. À l'empire thalassocratique d'Athènes, désormais éclaté à cause de la guerre, il faut substituer un système cohérent de relations économiques. Donc nous avons là, pour la première fois, la première économie politique de l'histoire qui apparaît, de manière très claire, et directement en lien avec sa transposition dans le pouvoir. Par exemple, pour équilibrer les importations nécessaires au ravitaillement de la ville, il faut, d'après Xénophon, développer les exportations, marbre et minerais d'argent, grâce à un des principaux atouts de la cité qui lui paraît la position centrale de son port, le Pirée. Il préconise alors aux hommes politiques en vue trois innovations pour procurer à la cité des revenus nécessaires à ses dépenses. C'est au Pirée qu'il faut attirer par des mesures attractives les créateurs de richesses monétaires. c'est-à-dire les METEC, car plus il y en aura, plus l'impôt sur les étrangers résidents donnera des revenus à la cité. Il faut également davantage exploiter les mines du Lorion en vue d'une croissance des exportations et que la cité devienne propriétaire de la main-d'œuvre servile nécessaire dont la location lui procurerait un important revenu régulier. Voilà le vrai sens d'économie. Cette extension du sens oikonomia s'observe également dans un autre traité. C'est le texte Les Économiques d'Aristote vers 320-300. Voilà, et là c'est le premier manuel, non plus pour une cité, mais pour un royaume. Et donc ce sont des conseils donnés aux administrateurs du royaume sous forme d'anecdotes. Par exemple, ces conseils, c'est comment lever des impôts monétaires, comment dégager les plus grands revenus des domaines agricoles et des établissements miniers et artisanaux du roi, comment également asseoir des richesses monétaires. Voilà, je trouve que c'était intéressant de revenir à cette origine de ce mot économie. On voit qu'il s'agit bien, dès le départ, d'économie marchande et monétaire. Ces mots juxtaposés constituant de fait un oxymore. Et non, comme on veut nous le laisser croire, la simple et naturelle bonne gestion d'une maisonnée. Et en fait, pendant des siècles, ce mot économie fut oublié. Ce n'est qu'avec la naissance du capitalisme, à partir des 15e et 16e siècles, que l'on peut dire qu'il y a constitution, sous le nom d'économie, d'un ensemble d'activités sociales spécifiques, production, distribution, échange, consommation, qui vont, peu à peu, progressivement, structurer la reproduction des rapports sociaux comme simple rapport d'économie. L'économie, à la fois comme science bourgeoise et surtout comme réalité, est ainsi une production récente, très récente au vu de l'histoire. Donc ça, c'était pour revenir sur cette étymologie et ça semble intéressant. C'est donc les capitalistes, finalement, qui ont réemployé ce terme et qui se le sont réappropriés. Alors, il y a un autre article dans cet ouvrage intitulé « Le monde de l'économie tel qu'il n'est jamais allé ». Et là, les auteurs détaillent ce que signifie concrètement cette emprise de l'économie sur nos vies. Je vous lis quelques petits extraits également. Le capitalisme a toujours été bien plus qu'un simple mode particulier de production d'une réalité économique transhistorique. Il relève fondamentalement d'une forme de vie sociale constituée pour la première fois dans l'histoire humaine par une activité, le travail, et ses expressions qu'il incorpore aux marchandises, la valeur et l'argent, qui, au travers de sa dépense, nous médiatise les uns les autres de manière structurelle, qu'on le veuille ou non. La surorganisation de notre vie quotidienne par le rapport capital, qui nous saisit y compris dans le quotidien de nos vies hors de la profession. Dans l'invention, par exemple, de ces temps de travail comme de ces moments de temps libre, a ainsi accouché d'une formidable méga-machine sociale qui non seulement génère des inégalités et des injustices criantes, mais est aussi devenue largement incontrôlable, si ce n'est par une suradministration écolo-cybernétique qui ne peut que pousser toujours plus loin sa démesure. Un petit peu plus loin, la civilisation capitaliste a fini par tellement envahir notre réalité en faisant de nous sa propre chair industrielle, que plus personne n'ose encore prendre les problèmes à la racine de leur surgissement, tellement elle a réussi à provoquer l'envahissement d'un énorme sentiment encore refoulé, et qui pourrait dès lors remonter à la surface, de se dégoûter soi-même chez tous ceux qui en sont à chaque instant. Voilà un petit peu ce que disent ces auteurs. Ils nous disent un petit peu plus loin, par exemple, que la production de masse n'est pas une possibilité parmi d'autres au sein de l'économie, un choix conscient et délibéré. Elle participe de son principe même, c'est-à-dire de la logique coercitive et totalitaire de la valeur. On ne peut dès lors s'opposer à l'industrialisation de l'existence sans critiquer l'échange de marchandises. Les formes et catégories capitalistes qui rendent possible le raffinement sans fin de la division des tâches. Et les auteurs nous disent, la critique se doit d'être résolument anti-industrielle parce que farouchement anti-économique. Donc, pour sortir de l'économie, les auteurs nous disent qu'il est nécessaire de dépasser collectivement la structuration de notre vie sociale telle qu'elle nous est imposée aujourd'hui. C'est la structuration profonde de la forme de cohésion sociale actuelle qu'il nous faut faire basculer vers une autre forme de synthèse sociale, au-delà d'une manière de rentrer structurellement en relation avec d'autres au travers du travail, de l'argent, de la valeur et de l'État. Il nous faut littéralement sortir de cette invention de l'économie. Et là, on reprend le titre d'un ouvrage que je vous conseille également, un ouvrage de Serge Latouche, sous le titre « Invention de l'invention de l'économie » paru en 2005. Et pour cela, il est nécessaire, selon toujours les auteurs de cet ouvrage, d'opérer un recul critique sur nos pratiques actuelles, y compris les pratiques dites alternatives, tant même celles-ci peuvent être imprégnées de cette notion d'économie. Voilà pour donc une partie de ce livre donc, et des articles ayant trait à l'économie dans ce livre « Sortir de l'économie ». Et je voudrais juste vous lire la conclusion donc, de ce dernier article. En 68, il y avait ce tag dans l'amphi de la Sorbonne qui résumait bien toute la perspective de l'économisme révolutionnaire qui voulait simplement un nouveau partage du gâteau, alors que c'est la recette et le cuisinier qu'il fallait défenestrer. Donc sur les murs de 68, on lisait « On ne revendiquera rien, on ne demandera rien, on prendra, on occupera. » Aujourd'hui, ce serait plutôt « On ne revendiquera rien, on ne demandera rien, on désamarrera, on s'auto-organisera. » Il faut faire en sorte que nous n'ayons plus besoin de l'économie dans chacun de nos actes et moments existentiels, et notamment en faisant circuler dans les liens qui nous rassemblent les réalisations de la vie autrement qu'au travers des catégories du travail, de la valeur et de l'argent. L'idée sera toujours de s'arranger pour avoir le moins possible à faire avec cette machinerie sociale, de sorte que nos vies n'apparaissent plus sur les tableaux de bord des économistes et des gestionnaires. Étant de plus en plus invisible et inaccessible à l'interdépendance échangiste mondiale par la reproduction autre de nos vies, c'est l'économie, au fur et à mesure de l'auto-organisation de la désertion collective, qui dégonflera jusqu'à son dépérissement. Nous appelons surtout tous ceux qui n'ont plus l'envie de tourner autour du pot de la critique à mettre le plus de pieds possible dans les plats. Voilà comment se termine cet article. Que je vous recommande vivement, donc des articles tirés, je vous le rappelle, de l'ouvrage « Sortir de l'économie », quelques ennemis du meilleur des mondes. Il est sorti en 2013 aux éditions Le Pas de Côté. Et je vous rappelle également l'ouvrage de Serge Latouche sorti en 2005, « L'invention de l'économie », pour vous faire réfléchir à tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.